France Culture. Les nuits de France Culture.
Il nous est difficile aujourd'hui d'imaginer un mariage sans amour. Les deux mots sont indissociables dans l'imaginaire collectif. Le motif quasi exclusif de l'union entre deux personnes est cet amour partagé, ce désir consenti par l'un et par l'autre de construire une vie en commun. Pourtant, le mariage d'amour, ainsi même que notre conception moderne du couple, est quelque chose de très récent dans l'histoire de l'Occident. Jusqu'au XIXe siècle, le mariage était une affaire de reproduction sociale, d'enjeux économiques, gérés par les chefs de famille. Les relations interpersonnelles étaient à peine évoquées, et les mariés n'avaient souvent absolument aucune influence sur le choix de la personne avec qui ils étaient voués à partager leur vie. C'est cette réalité, presque tombée dans les oubliettes de l'histoire, qu'évoque en détail l'historien Jean-Louis Flandrin et le sociologue Augustin Barbara, au micro de Roger Pilaudin, dans ce numéro de Dialogue. Une émission diffusée pour la première fois le 7 avril 1981 sur France Culture.
Fillette mariée, ne perdez pas courage. Fillette mariée, ne perdez pas courage. Les amants d'à présent sont des amants volages. Alandri tralala et tralalire. Les amants d'à présent sont des amants volages. Les amants d'à présent sont des amants volages. Quand ils sont devant vous, mademoiselle, que je vous aime.
Nous écoutons ce soir un dialogue qui réunit Jean-Louis Flandrin et Augustin Barbara. Ce dialogue est le premier d'une série de 4 dialogues enregistrés au musée du Château des Ducs de Bretagne à Nantes à l'occasion de l'exposition « Le mariage en Bretagne ». Cette exposition réalisée par l'association Buez dans le style des ATP, des arts et traditions populaires, se déplacera et s'installera au cours de l'été dans plusieurs villes de Bretagne. Jean-Louis Flandrin est historien. Il s'intéresse depuis plusieurs années à l'histoire de la famille et de la sexualité. Il est l'auteur de plusieurs livres dont je vous rappelle les titres. L'Église et le contrôle des naissances, Les amours paysannes, Famille, au pluriel. Il vient de publier aux éditions du Seuil un recueil d'articles réunis sous le titre « Le sexe en Occident ». Augustin Barbara est sociologue, il est l'auteur d'une thèse sur les mariages mixtes et de très nombreux articles sur les migrations internationales. Il poursuit actuellement des recherches sur l'évolution du mariage et de la relation de couple dans la société contemporaine. « Mariage et relation de couple », c'est d'ailleurs le titre de ce dialogue. Mariage et relations de couple, sociologie et histoire, Jean-Louis Flandrin.
Bien, je suis très content d'avoir pour une fois un sociologue en face de moi, parce que si je travaille sur le mariage ou sur la vie sexuelle depuis bientôt 20 ans, c'est parce que j'essaye de confronter l'expérience actuelle avec l'expérience passée. Mais en fait, l'expérience actuelle, je la connais très mal. Je la connais par ma vie personnelle, par celle des gens qui se vivent autour de moi, mais je n'en ai aucune vision d'ensemble. Et pour une fois que j'ai un sociologue en face de moi, j'espère qu'il va préciser un petit peu ma vision de l'actuel, comme je pourrais peut-être préciser sa vision du passé.
Augustin Barbara.
Oui, je pense qu'un certain nombre de questions se posent Actuellement, sur le plan du mariage et du couple, une question très simple, c'est bon, faut-il ou pas se marier ? Voilà une première question. D'autre part, on voit de plus en plus se développer la cohabitation prénuptiale. Juvénile, actuellement, on estime qu'il y a 50% des gens qui se marient, qui ont vécu déjà plusieurs années avant. Alors, je pose la question à l'historien, est-ce que ça a une signification ? Est-ce que la cohabitation existait avant, autrefois ? Autre question que je lui pose, c'est comment, dans l'histoire, on a concilié la notion d'intensité du sentiment amoureux, avec la durée dans le mariage. Est-ce qu'il n'y a pas là quelque chose, je dirais, de contradictoire ?
Mais je crois que ce dernier problème est un problème du présent, beaucoup plus qu'un problème du passé. Car il se réfère tout de suite à notre mariage actuel, c'est-à-dire au mariage d'amour. Je pense qu'autrefois, le mariage d'amour n'existait pas, ou du moins, s'il existait, il était totalement marginal.
Alors, quel type de mariage existait
Mais je crois que le mariage, et jusqu'au siècle dernier, c'était une affaire de famille, une affaire sociale, une affaire de reproduction sociale, puisque la famille est une cellule de production dans la société. La constitution d'un couple met en jeu des intérêts économiques évidents. Un paysan ne va pas marier son fils avec n'importe qui parce que il a besoin d'une dot pour la maison, souvent aussi pour marier ses autres filles. Enfin, on est dans un système où la femme doit apporter quelque chose au ménage, c'est la dot. On ne prend pas une femme sans dot, ou si on la prend, c'est exceptionnel.
Est-ce que dans l'histoire, il y a une coupure à un certain moment, et est-ce que c'est l'industrialisation qui a fait que le salariat généralisé a fait que les individus n'avaient plus que leur salaire à s'échanger, et que c'était justement en fonction de cela seulement, pour l'homme du moins, hein?
Je crois en effet que c'est le point fondamental, mais peut-être il faudrait préciser un petit peu ce qu'était le mariage ancien. Puisque le mariage est une affaire de famille, le choix du conjoint est l'affaire du chef de famille. C'est pas l'affaire du jeune homme, c'est l'affaire de son père. C'est pas l'affaire de la jeune fille, c'est l'affaire de son père. Le mariage avait pour fonction d'allier deux familles, c'est-à-dire que l'histoire de Roméo et Juliette est tout à fait significative de ce qui existait autrefois. Deux familles ennemies ne peuvent pas s'allier. Ou du moins, elles s'allient, c'est pour mettre fin à une inimitié. Moi, je suis très frappé, par exemple, de ce que Pierre Lombard, qui est un théologien du XIIe siècle, est très important, même s'il est peu connu aujourd'hui, puisque pendant quatre siècles, tous les étudiants en théologie ont travaillé sur son livre des sentences. Eh bien, Pierre Lombard, lorsqu'il parle du mariage et des raisons, des motifs du mariage, nous dit « il y a de bonnes raisons et il y a des raisons moins bonnes ». Et alors, parmi les bonnes raisons, il met la volonté de mettre fin à une inimitié de famille et d'établir la paix entre deux familles. Ça, c'est une bonne raison de se marier. Parmi les raisons moins bonnes ou les mauvaises raisons, il met l'amour de la beauté ou de l'argent. Il met les deux choses sur le même plan. Néanmoins, comme il est, on dirait aujourd'hui, il est progressiste, enfin, il est libéral, si vous voulez, il dit, mais le mariage est un vrai mariage, même si c'est l'amour qui entraîne les jeunes gens à se marier. Dans la culture ancienne, on essayait d'aiguiller les amoureux dans une autre direction que celle du mariage. Si vous aviez un fils amoureux, bon, après tout, c'est de son âge, les jeunes gens sont amoureux, ils ont envie d'avoir des maîtresses, mais si vous voulez, sous prétexte d'amour, vous imposer une bru sans un sou ou de mauvaise famille, ça c'était inacceptable. Donc vous avez toute la culture occidentale ancienne qui orientait les jeunes gens amoureux vers autre chose que le mariage.
Augustin Barbara.
C'était dans le cadre quand même d'une famille très très large, enfin une famille élargie. Dans la France rurale, on vivait à plusieurs générations. Hein, et il y a eu à un certain moment une évolution vers le type de famille que l'on connaît actuellement, qui est cette famille très réduite au couple et aux enfants. C'est-à-dire que vous avez coexistence seulement de deux générations, c'est-à-dire les parents et les enfants, alors qu'auparavant, il y avait trois, sinon quatre générations, plus tous les collatéraux.
Ça, c'est une opinion de sociologue extrêmement contestée par les historiens.
Jean-Louis Flandrin ?
Vous connaissez sans doute l'anglais Peter Laslett, qui a tout un groupe à Cambridge, et qui a mis en ordinateur des tas de recensements du 16e, 17e, 18e siècle, les recensements de villages, maison par maison. Et il s'est aperçu que la famille nucléaire était la norme quasi absolue. En France, on a peu, enfin du moins on a trouvé et exploité peu de recensements maison par maison, mais tous ceux qu'on a trouvés, du moins dans la partie nord de la France, confirment le modèle anglais dès le XVIIe siècle, c'est-à-dire qu'on trouve un père, une mère et des enfants célibataires. Et il est extrêmement rare qu'on trouve deux couples dans la même maison, c'est quasi inconnu. En revanche, personnellement, moi j'ai critiqué Laslett dans la mesure où il a voulu faire de ce modèle un modèle quasi universel ou du moins européen, car il y avait des régions de France au XVIIe, XVIe, XVIIe, XVIIIe siècle où il existait des familles plus larges, par exemple dans les Pyrénées et même dans, d'une manière générale, tout le sud de la France, où vous avez d'une part la famille souche, c'est-à-dire qui est composée d'un couple parental, plus le fils aîné et sa femme et leurs enfants. Les autres enfants ne se mariant pas ou se mariant à l'extérieur de la maison. Et puis vous aviez aussi des régions, surtout dans le centre de la France, le Périgord, le Rouergue, etc., où il y avait volontiers ce que Leplay appelait la famille patriarcale, c'est-à-dire un couple parental et puis plusieurs couples d'enfants. D'accord. Plusieurs fils ou filles mariées vivant avec leurs parents. Mais c'est quand même relativement exceptionnel. Enfin, c'est pas très exceptionnel dans ces régions-là, mais dans l'ensemble de la France et surtout encore plus dans l'ensemble de l'Europe, c'est assez exceptionnel. C'est pourquoi je réagissais sur la famille large.
Justement, dans ce type de famille qui se rapprochait d'une famille, disons, assez nucléaire, le lien conjugal n'était pas celui qu'il a tendance à vouloir être aujourd'hui. C'est-à-dire un lien plus duel de deux individus. Bon, on le voit très bien dans la cohabitation juvénile. On met le mariage à l'arrière et on met le couple en avant. C'est-à-dire qu'il y a une valorisation du lien entre deux individus qui est très forte.
Oui, mais là, vous parlez d'un lien interpersonnel, et c'est ça qui caractérise le mariage d'aujourd'hui. Du moins, c'est notre idéal du mariage d'aujourd'hui.
C'est un type de mariage, puisqu'il y a plusieurs types de mariage. On ne peut pas parler du mariage, mais de plusieurs types de mariage qui peuvent se succéder dans le temps. Et je dirais même que les formes même peuvent se succéder dans la vie même d'un couple marié, c'est-à-dire qu'un couple marié peut vivre au début une période très romantique et fusionnelle pour passer par des périodes plus d'association, enfin pour reprendre les termes de Louis Roussel, d'association, de compagnonnage.
Écoutez, comme Louis Roussel ou vous travaillez uniquement sur l'actuel, alors vous cherchez à faire une typologie des mariages actuels. Oui. Mais pour moi qui suis historien, qui travaille sur le XVIIe siècle, sur le XVIe siècle, j'essaye de comparer l'ancien à l'actuel.
Oui. Mais ce qui m'intéresse
je trouve qu'il est facile de comparer en termes d'idéal et de normes. Oui. Parce que je suis persuadé qu'il existait autrefois, au 15e, au 16e, au 17e siècle, des maris et des femmes qui étaient amoureux l'un de l'autre, qui pouvaient l'être avant de s'épouser, qui pouvaient s'être épousés parce qu'ils étaient amoureux l'un de l'autre et qu'ils avaient forcé la main de leurs parents, ou parce qu'ils avaient eu la chance de bien tomber dans leur amour et de tomber justement sur la personne que leurs parents voulaient leur faire épouser. Ça pouvait arriver. Et il était possible aussi qu'on les ait mariés sans qu'ils se connaissent et puis qu'ils se soient découverts l'un à l'autre dans le lit conjugal. Ce n'est pas ça qui est important et qui nous permet de comprendre le mariage ancien par rapport au mariage d'aujourd'hui. Et il me semble que de même, ce qui nous permet de comprendre le mariage d'aujourd'hui par rapport au mariage ancien, c'est cet idéal d'association mais vraiment personnelle, disons le mariage d'amour pour le dire grosso modo.
Oui, mais ça n'a pas toujours existé.
Quels que soient les couples, et on sait qu'ils sont très différents les uns des autres, qu'il y a des mariages plus ou moins réussis, plus ou moins ratés, disons que quand même, l'idéal, la norme sociale, c'est le mariage d'amour. Est-ce que vous êtes d'accord là-dessus ou pas ?
Augustin Barbara ?
Pas à toutes les périodes, même dans les dernières 50 années. La norme est devenue le couple plus que le mariage. C'est-à-dire que le couple est rentré dans le mariage. Et je pense même qu'actuellement, le couple s'institutionnalise.
Alors ça, c'est terrible, parce que chaque fois qu'on travaille un petit peu sur la spécialité d'un autre, on a toujours une génération de retard. Alors moi, je vois que j'ai une génération de retard par rapport à vous.
Mais non, mais
parce que je pense encore au mariage d'amour, et pour vous, c'est fini depuis longtemps.
Non, il n'est pas fini, mais le mariage d'amour n'existe plus, c'est le couple qui se veut. C'est l'idée de couple.
Mariage.
L'idée de couple, actuellement, est une idée autour de, oui, du sentiment d'amour. Hein, et elle se valorise, effectivement. On veut se débarrasser de l'institution sociale mariage qui était une attestation devant les groupes sociaux que deux individus se mariaient. Enfin, il faut pas non plus généraliser, parce que le mariage existe encore. À Nantes, on voit des mariages toutes les semaines, et c'est quelque chose qui est assez intéressant à voir. C'est-à-dire qu'on voit dans les cortèges de mariés tout de même toute une manifestation du social. Mais elle se montre différemment, d'ailleurs, selon les groupes sociaux. Mais quand je dis que ça s'institutionnalise, c'est-à-dire que cette cohabitation se pose pour elle le problème de la durée. Souvent, on se pose aussi le problème du mariage légitimé. Hein, à tel point même que actuellement, on fait des certificats de
cohabitation,
de vie maritale. C'est-à-dire comme maritale. C'est intéressant parce que c'est comme si on était mariés. Hein, marital. Mm-hmm. Hein? C'est-à-dire qu'on se prépare.
Jean-Louis Flandrin.
Mais vous savez que cette préparation n'est pas tellement nouvelle.
Voilà,
du moins qu'il en a existé des formes à certains endroits, à certaines époques. Bon, par exemple, la plus connue, il faudrait... Malheureusement, on n'a pas pu la tester statistiquement, parce que la statistique commence juste après que ça disparaisse. Mais enfin, au Pays Basque, il existait encore au début du XVIIe siècle, nous dit-on, le mariage à l'essai. C'est-à-dire que... les jeunes gens, avant de passer, j'allais dire devant monsieur le maire, non, c'était monsieur le curé, avant de passer devant monsieur le curé, faisaient l'essai, non pas seulement de leur intérêt l'un pour l'autre, du plaisir qu'ils prenaient dans le lit conjugal, enfin, ou qui sera conjugal, mais aussi et surtout, ils faisaient un essai de fécondité, c'est-à-dire que si la jeune fille se révélait stérile, eh bien, il n'y avait aucune raison de l'épouser, puisque... Le mariage n'était pas fondamentalement une affaire d'amour, mais servait à faire des enfants pour prolonger une famille.
Oui.
Alors, ça me semble d'ailleurs parfaitement logique dans le système ancien du mariage, et j'ai l'impression que en supprimant le mariage à l'essai, bon, c'est l'Église au XVIIe siècle qui a trouvé ça absolument scandaleux, on a porté un coup au mariage traditionnel. À partir du moment où on n'accepte plus le mariage à l'essai, eh bien, ça veut dire que le mariage n'est pas fait principalement pour la procréation. Et il y a un vice là dans la définition traditionnelle du mariage. D'un côté, on dit qu'il est fait pour la procréation, mais d'un autre côté, on interdit l'essai de procréation et on interdit le divorce si l'un des époux est stérile, ou du moins s'ils sont stériles l'un avec l'autre.
Mais actuellement, dans les cohabitations avant le mariage, il est certain que l'enfant pose question aux cohabitants. Et que la venue d'un enfant est un élément décisif pour passer au mariage. Et je me demande là si, justement, dans un certain nombre de stratégies entre les conjoints, si il peut pas y avoir une stratégie d'avoir un enfant pour une femme, et qui serait la femme qui serait demandeuse du mariage plus que l'homme.
Oui,
le problème du statut de la femme, j'aimerais bien qu'on en parle, savoir si l'évolution du statut de la femme a provoqué un changement dans l'approche ou la désaffection du mariage.
Moi, je ne dirais pas que cela a provoqué un changement, je dirais que tout est lié et que l'un des aspects de la question, c'est le statut de la femme. Mmh. C'est-à-dire qu'autrefois, un homme et une femme, c'était extrêmement différent. Ça ne faisait pas du tout la même chose. Pour faire marcher n'importe quelle entreprise, il fallait un homme et une femme. Cela ne veut pas dire non plus que la femme d'autrefois était absolument cantonnée dans sa maison, comme le disent souvent les féministes aujourd'hui, car la femme avait toutes sortes d'occasions de sociabilité. Elle parlait beaucoup avec les autres femmes, au lavoir, etc., etc.
Sociabilité plus entre femmes.
Oui, mais elle allait aussi au marché vendre les produits de la basse-cour.
Oui, d'accord.
Et c'est elle qui conservait l'argent qu'elle ramenait du marché. Donc, on ne peut pas dire que la femme était enfermée dans la maison et que l'homme était à l'extérieur. Je crois qu'en France, du moins en général, mais ce qui est fondamental, c'est que l'homme et la femme avaient deux métiers différents. Et que pour faire une cellule de production, il fallait un homme et une femme. À tel point que lorsque un mari perdait sa femme, il se remariait presque immédiatement. Disons, dans le mois qui suivait, très souvent, le mariage était célébré. Et c'était pas propre aux paysans, puisque on a étudié à Lyon, au XVIIIe siècle, une paroisse, je me souviens plus laquelle, et où on trouve que 80% des veufs se remarient avant 6 mois. Ça fait quand même beaucoup.
D'autre part, il y avait aussi un autre domaine, c'est un autre facteur, c'est le nombre d'enfants. Nous avions des familles avec facilement 10 enfants, sinon plus. Bon, il en mourait un certain nombre.
Oui, attendez, vous savez que là aussi, les sociologues avaient des idées là-dessus et puis que les historiens les ont transformées depuis une vingtaine d'années. Si on prend par exemple, encore une fois, Le Play, c'est un peu notre tête de Turc,
oui,
mais
oui.
Bon, pour Le Play, une femme se mariait à 20 ans et en 25 ans de vie conjugale, elle faisait un enfant par an, ce qu'il lui faisait dans les 25 enfants. En réalité, on n'a jamais vu ça. Hein.
Oui, mais, oui.
Lui pensait que ça existait. Qu'est-ce qui se passait? En fait, il arrivait que certaines familles, en particulier dans les villes, avaient des familles très nombreuses. Bon, on a par exemple des bourgeois, des familles nobles, mais aussi des familles d'ouvriers, par exemple des canuts lyonnais ou des bouchers, des boulangers. Dans tous les milieux où on mettait les enfants en nourrice, la fécondité de la femme était beaucoup plus grande. Et on pouvait avoir presque un enfant par an, si vous voulez. L'intervalle intergénésique était souvent de 12-13 mois, quelquefois même de 11 mois. En revanche, dans les milieux majoritaires où on ne mettait pas les enfants en nourrice, alors l'intervalle intergénésique était de 2 ans, 2 ans et demi. Dans la France du Sud, très souvent 3 ans, et c'est une moyenne, en fait, pouvait être beaucoup plus important. De sorte que, comme d'autre part, la durée moyenne de vie conjugale était d'une quinzaine d'années, ça ne vous fait pas beaucoup d'enfants, hein. Si vous prenez un intervalle de 3 ans en 15 ans de vie conjugale, ça vous fait 5 enfants. Bon, alors, les démographes ont essayé de mettre au point des méthodes pour évaluer la fécondité. Alors, l'un de leurs concepts, c'est le nombre d'enfants par famille complète. Et ils appellent famille complète celle qui a duré jusqu'à la limite de fertilité naturelle de la femme, c'est-à-dire jusqu'à 50 ans, disons.
Alors, dans toutes les familles où la femme a atteint 50 ans, on regarde le nombre d'enfants, eh bien le maximum, c'est chez les familles canadiennes du XVIIIe siècle, c'est 8 enfants. Mais dans d'autres régions, par exemple dans les Pyrénées, je crois qu'on est à 4 ou 5 enfants pour les familles complètes. Alors si on considère toutes les familles, y compris celles qui ont été prématurément brisées, alors là, le nombre moyen d'enfants serait de 4 ou 5 enfants par famille, ce qui n'est pas excessif. Aujourd'hui, on appellerait peut-être ça une famille nombreuse, mais enfin, c'est très loin des 10, 15 enfants qu'on imagine.
Oui, mais c'est encore un peu loin, disons, des 2 enfants de la famille moyenne actuelle. Ça a une importance dans la relation. Il me semble, dans la relation de couple, c'est une espèce de centration affective sur l'enfant, surtout s'il est unique, tandis qu'avec 5 enfants, est-ce qu'on peut aimer de la même façon, une tribu, hein, et puis 2 enfants ? C'est-à-dire qu'il y a un investissement sur l'enfant qui est beaucoup plus grand. Cet enfant peut devenir un enjeu au moment de la séparation, du divorce, enfin actuellement.
Comme j'ai beaucoup dit de mal des sociologues, je voudrais maintenant dire du mal des médecins qui nous font croire qu'ils ont augmenté, ils ont multiplié par 2 ou 3 la durée de vie moyenne des individus. C'est vrai, la durée de vie moyenne, mais quand on dit ce mot-là, on s'en pas très bien compte ce que c'est. Qu'est-ce qui s'est passé en réalité? Eh bien, autrefois, la moitié des enfants mouraient, et aujourd'hui, elles ne meurent plus. Alors, ça multiplie par deux la durée de vie moyenne. Mais les gens qui avaient dépassé le stade de l'enfance vivaient autrefois presque aussi longtemps que nous. Et la médecine nous a ajouté quelques années de vie supplémentaires, mais pas forcément beaucoup. Mais pour revenir à votre question, bon, on sait que dans une région comme le bassin parisien ou comme la Bretagne, au XVIIe, XVIIIe siècle, il y a 200, 300 pour 1000 des enfants qui mouraient avant un an. Si on les prend entre 0 et 20 ans, à 20 ans, il y en a la moitié qui ont disparu. Alors, il est sûr que les parents ne peuvent pas investir autant d'affection qu'aujourd'hui. Enfin, il est sûr, c'est un raisonnement que je fais. Si les parents investissent autant d'affection qu'aujourd'hui, oui, ils deviennent rapidement fous parce qu'ils perdent enfant sur enfant. Enfin, oui, on ne pourrait pas survivre si on les aimait autant qu'on les aime aujourd'hui. D'accord. Aujourd'hui, on n'admet plus la mort d'un enfant. Enfin, quand ça vous arrive une fois dans votre vie, bon, c'est suffisant. En général, ça n'arrive pas deux, ça n'arrive pas trois fois. Mais là, il y avait des familles où il y avait cinq, six enfants qui mouraient en bas âge. Alors, il paraît exclu qu'on y ait été attaché autant qu'on l'est aujourd'hui.
Oui.
Mais ce qui ne veut pas dire qu'une fois dépassé ce stade de la mortalité infantile, on ne pouvait pas s'y attacher comme aujourd'hui. Moi, je crois en effet, comme vous le dites, que quand on avait des familles trop nombreuses, très nombreuses, disons, on ne s'y attachait pas autant qu'on s'attache à un enfant unique ou aux deux enfants qu'on a aujourd'hui en moyenne.
L'enfant assurait la vieillesse. C'était la sécurité sociale des parents. C'était l'assurance vieillesse.
Oui, vous savez qu'il y a et des sociologues, et des historiens, et des démographes qui ont souvent cherché à savoir si faire des enfants était une bonne affaire. Et on a dit pour différentes sociétés, on a dit par exemple, quand j'étais en Algérie, on disait que avec la cause de la sécurité sociale, c'est pour ça que les Arabes avaient beaucoup d'enfants. Je ne sais pas du tout si c'est vrai ou pas vrai, je ne crois pas, parce qu'ils avaient beaucoup d'enfants avant d'avoir la sécurité sociale. On a dit qu'au XVIIIe siècle, qu'au XIXe siècle, les ouvriers avaient beaucoup d'enfants, parce que l'enfant, il n'y a pas de sécurité sociale, mais l'enfant, ou d'allocation familiale, mais l'enfant travaillait en usine. Bon, c'est vrai, il travaillait en usine, mais je ne suis pas sûr qu'il rapportait tellement d'argent à ses parents. Et en général, avant d'avoir un enfant en âge de rapporter de l'argent, il faut quand même investir pas mal. Et je ne crois pas que des gens pauvres soient ni psychologiquement ni matériellement en mesure d'investir sur un enfant. J'ai l'impression qu'ils ne font pas ce calcul économique.
Nous écoutons ce soir un dialogue enregistré au musée du château des Ducs de Bretagne à Nantes à l'occasion d'une exposition intitulée « Le mariage en Bretagne ». Ce premier dialogue d'une série de quatre réunit Jean-Louis Flandrin et Augustin Barbara qui se rencontrent sur le thème « Mariage et relations de couple ». Augustin Barbara.
Ariès montre bien comment on passait très vite du stade de l'enfance au stade adulte et que la période de l'adolescence, c'est quelque chose de récent et que, justement, actuellement, nous voyons cette période-là s'étirer, plus en plus,
oui,
notamment en période de crise économique avec le chômage. D'abord, à l'adolescence est arrivée la préadolescence, et puis maintenant, il y aura la post-adolescence. Avant, de rentrer dans le monde adulte, mmh. hein, qui correspond en gros avec le travail, enfin avoir une profession, un emploi. Même le service militaire actuellement joue moins ce rôle de rite de passage qu'il avait.
Mais là, j'ai l'impression qu'il y a deux sortes de sociologues hein, sur ce problème-là.
Oui.
Jean-Louis Flandrin.
Il y en a qui disent les enfants sont beaucoup plus mûrs maintenant qu'autrefois, et la preuve, c'est qu'ils ont le droit de vote
mais
à 18
ans. Mais j'ai pas parlé de maturité, là.
Non. Hein,
j'ai parlé de comment...
Non, mais moi, je suis d'accord avec vous, mais je veux dire que c'est... Ça, c'est plutôt, en effet, c'est Ariès qui l'a dit, et beaucoup de gens l'ont repris après lui. Est-ce que c'est une idée que les sociologues ont repris vraiment, celle-là, cette idée d'Ariès ?
C'est-à-dire, je pense que c'est une idée neuve pour nous et qu'on est en train de l'étudier.
Parce que l'idée inverse accourt aussi, c'est-à-dire, on dit souvent, mais les jeunes aujourd'hui sont plus mûrs qu'autrefois, ils ont...
Il faudrait s'entendre sur la notion de maturité. Est-on mûr pour tout ou avons-nous des maturités différentes pour telle ou telle chose? Enfin, moi, je pense que c'est beaucoup plus que la maturité. C'est pas un bloc comme ça monolithique, mais que j'ai une capacité à conduire une voiture et je n'aurai pas une capacité à une maturité à faire autre chose. Je pense que là, je pense qu'on a une vision un petit peu trop monolithique et c'est plus, je dirais, dans un processus de maturation que s'inscrit l'individu plutôt, enfin l'individu dans un contexte social.
Tout à fait d'accord.
Par contre, j'aimerais bien qu'on revienne sur un point, c'est la sexualité dans le couple. Autrefois, quel statut avait-elle, puisque il y avait bien la séparation entre mariage et amour. Donc la fameuse dette conjugale.
Vous voulez pas me laisser parler un petit peu plus de mariage et amour, parce que vous m'avez coupé. C'est un petit peu long, vous savez. Je crois qu'il faudrait pas donner des idées fausses, parce que bon, il y a la théorie, il y a différents milieux sociaux. Bon, il existait des couples qui se mariaient tout simplement par amour et qui arrivaient à forcer la main de leurs parents. Il ne faut pas d'autre part penser que plus on remonte dans le passé et plus les choses sont différentes de ce que nous connaissons aujourd'hui. Il semblerait au contraire que avant le XVIIe siècle, il était plus facile de se marier par amour qu'au XVIIe siècle. Car il y a eu, dès le milieu du XVIe siècle, un certain nombre de lois royales qui ont empêché les mariages lorsque les parents ne voulaient pas donner leur consentement.
C'est ça. Et il fallait le consentement.
Il fallait le consentement des parents. Sans ça, le mariage était à peu près nul, ou du moins l'enfant déshérité. Et on a inventé la notion de robe de séduction, qui est très intéressante. C'est-à-dire que si une personne majeure épousait une personne mineure sans le consentement de ses parents, cette personne majeure était considérée comme coupable de robe de séduction et condamnée à mort. Alors, la personne majeure pouvait en être une fille aussi bien qu'un garçon. Et la majorité étant fixée à 25 ans, pour les filles et pour les garçons. Et bon, alors, vous voyez que si, bon, il y avait un jeune homme de 24 ans qui était amoureux d'une fille de 26 ans, s'il s'épousait sans le consentement des parents, eh bien, la fille, normalement, était exécutée, ce qui permettait ensuite au père du jeune homme de le marier à quelqu'un d'autre qui lui convenait davantage. Comme l'État n'avait pas le pouvoir de casser un mariage, qui était une affaire d'église, il avait trouvé ce moyen d'y mettre fin, et il y avait un adage juridique qui était « il n'est si bon mariage qu'une corde ne puisse rompre ». Vous voyez qu'il y a une réaction enfin, contre le mariage d'amour, 16e, 17e siècle. Et puis il semblerait qu'au 18e siècle, le mariage d'amour commence à être à la mode. Quand je dis à la mode, ça veut dire dans les élites. On ne sait pas jusqu'à quel point cette mode passe en réalité.
Mais d'où est venue cette idée d'amour, de mariage d'amour ?
Et moi, je me demande si ce n'est pas mieux d'Angleterre, car j'ai l'impression que chez les puritains, enfin, c'est un petit peu, ça paraîtra paradoxal, mais j'ai l'impression que c'est les puritains qui ont inventé le mariage d'amour. Et qu'ils étaient beaucoup plus libérés et libéraux que nos catholiques. Mmh. On trouve chez les puritains, dès le XVIe siècle, l'idée que, bon, en somme, que Dieu a un grand livre, où sont marqués ceux qui doivent s'épouser, et que les jeunes gens un jour se reconnaissent, s'épousent, et c'est vraiment le mariage d'amour d'Hollywood, déjà au XVIe siècle. Mmh. Et alors bien sûr, là j'ai fait un petit peu un anachronisme, parce que c'est pas tout à fait le mariage à la manière d'Hollywood, mais ça y ressemble pas mal. Et naturellement, il y a la conséquence inévitable, si le mariage est fondé sur l'amour, alors il faut permettre le divorce. Et si l'amour n'existe plus, alors ce bon Dieu admet que cet homme et cette femme ne sont pas faits l'un pour l'autre, puisqu'il ne leur a pas donné l'amour, et il faut que l'homme entérine la décision de Dieu, c'est-à-dire admettre le divorce. C'est la position de Milton, par exemple, au début du XVIIe siècle. Alors que chez les catholiques qui ne sont pas pour le mariage d'amour, ils ne sont pas naturellement pour le divorce. Du moins, ils admettent quelque chose qu'ils appellent le divorce, qui est la séparation, mais qui ne donne pas le droit de se remarier avec quelqu'un d'autre. Oui, alors, si vous voulez, si c'est les mariés en général ne se sont pas mariés par amour, on peut supposer que leur sexualité conjugale n'est pas tout à fait la nôtre. Et lorsque l'on étudie les théologiens qui ont parlé du mariage, bon, si vous prenez les théologiens d'aujourd'hui, ils vous diront que les relations sexuelles dans le mariage sont fondées sur l'amour et qu'au fond, tout ce qui va dans le sens de l'amour est bon et bien et justifié. Autrefois, ce n'était pas du tout leur problématique. On avait des relations sexuelles uniquement pour faire des enfants et pour payer la dette conjugale. On insistait beaucoup sur une parole de saint Paul et qui est « le corps de la femme est au mari, oui, et de même le corps du mari est à la femme ».
C'est ça. Mais il introduisait une égalité, là.
Non, pas du tout. Pas là-dedans. Là, il y a une égalité absolue, oui, entre le mari et la femme. Et je dirais, il y a même
mais oui,
plus...
justement, c'est ce que je dis.
Ah bon,
il introduisait une égalité.
Ah, pardon, j'avais compris une égalité.
Entre les partenaires.
Je crois, oui. Je crois, parce que il me semble que traditionnellement, le corps de la femme est au mari. Bien avant saint Paul, tout le monde était d'accord. Mais de dire, le corps du mari est à la femme, je crois qu'il fallait quand même saint Paul pour le faire admettre, et je ne crois pas qu'il l'ait fait admettre en réalité avant longtemps.
Oui.
En tout cas, on voit au XIIe siècle, à partir du XIIe siècle, les théologiens insister là-dessus, y revenir sans cesse, et on a même l'impression qu'ils ne comprennent pas très bien ce que ça veut dire. Car ils sont persuadés que dans tous les secteurs de la vie conjugale, la femme est inférieure à l'homme, y compris dans l'union sexuelle. En effet, dans l'union sexuelle, l'homme est actif, tandis que la femme est passive, donc, et la passivité est inférieure à l'activité, donc la femme est inférieure à l'homme. Si vous voulez, l'image que tout le monde reprend, c'est que l'homme est la tête, la femme est le corps. Cependant, bien que l'homme soit supérieur à la femme, vis-à-vis de la dette conjugale, ils sont dans une égalité absolue. Et pour établir cette égalité, ils vont jusqu'à privilégier la femme. Puisque naturellement, si vous voulez, dans une société qui considère qu'elle est inférieure, qui n'admet pas en général son égalité, eh bien, il faut la privilégier pour la rendre vraiment égale. Alors, ils insistent sur le fait que la femme, naturellement, est plus timide que l'homme et qu'elle n'osera pas revendiquer son droit aussi fortement que l'homme. De sorte que, pour que la femme se considère comme obligée de donner son corps à l'homme, il faut que l'homme l'exige. Pas simplement lui dise « Oh, écoute, chérie... » Non, il faut dire qu'il... je l'exige au nom du mariage.
C'est-à-dire que le rapport rustre... c'est ça, il fallait qu'il soit...
Jean-Louis Flandrin.
Écoutez, il y a quand même un certain nombre de débats. Là, il faut peut-être rentrer dans les détails, dans le contexte des débats. Je trouve ceci... par exemple, dans le cas où la femme a ses règles. Alors, en principe, il ne devrait pas y avoir de rapports conjugaux pendant que la femme a ses règles, car on pense que si on procrée un enfant, il sera lépreux ou monstrueux. C'est les idées de l'époque.
C'est l'Église.
C'est compliqué, parce que, si vous voulez... à partir d'une certaine...
Non, parce qu'on accuse beaucoup l'Église...
Oui, mais je pense que c'est l'Église.
Bon.
Si vous m'y poussez, je vous explique pourquoi je dis que c'est l'Église. Parce que au VIe siècle, tous les péchés sexuels étaient censés donner des enfants lépreux, monstrueux, boiteux, tordus, aveugles, etc. Alors, vous aurez un enfant boiteux si vous avez des rapports sexuels le dimanche, si vous couchez avec votre sœur, si, etc. Toutes les sexualités illégitimes donnaient des enfants boiteux, etc. Et puis, on voit au XIIe, XIIIe siècle qu'on ne parle plus d'enfants boiteux et monstrueux ou lépreux ou monstrueux que pour les relations pendant les règles. Alors j'ai l'impression qu'il y a en somme une espèce de médicalisation de la chose, alors qu'autrefois c'était directement Dieu qui envoyait un enfant boiteux ou aveugle ou tordu pour punir les époux. À partir du XIIe, XIIIe siècle, c'est médicalement, enfin c'est naturellement que l'enfant monstrueux est créé et procréé. Et si la problématique morale change complètement, avant il ne fallait pas faire ces actions parce qu'elles étaient interdites et l'enfant monstrueux c'était la punition du péché, alors que au XIIe, XIIIe siècle le péché c'est de risquer de faire un enfant monstrueux. Alors c'est intéressant si vous voulez pour les relations entre parents et enfants. Jusque là l'enfant était fait pour ses parents, alors qu'à partir du XIIe, XIIIe siècle, il prend une existence autonome, oui. Et les parents ont certains devoirs envers lui. Si on peut, il ne faut pas créer un enfant en lépreux ou monstrueux. Mais je reviens à ma question sur le devoir de l'homme et de la femme. Alors, si par exemple, la femme sait qu'elle a ses règles, bon, et que le mari lui demande de payer la dette conjugale, alors c'est très intéressant la discussion parce que les théologiens admettent que la femme ne doit pas dire à son mari « Non, chérie, j'ai mes règles. » Non, parce que le mari risque de se mettre en colère et de la battre.
Parce qu'il avait le droit de la battre.
Oui, mais là on parle... Bon, il avait le droit, mais là on parle pas de son droit. On dit que les hommes sont comme ça, ils ont horreur du sang menstruel. Et une femme qui a ses règles, c'est quelque chose de tellement répugnant qu'il va la battre. Alors on comprend que la femme ne le dise pas. Et alors elle doit essayer, elle doit dire « Non, je suis fatiguée, j'ai la migraine. » Mais si le mari insiste, s'il dit « Je t'ordonne de me donner ton corps », alors elle doit s'incliner. Mais vous voyez, simplement s'il insiste. Bon, là on voit bien que la femme n'est donc liée par la dette conjugale que si le mari l'exige. En revanche, quand on s'adresse au mari, il est lié par la dette conjugale dès qu'il s'aperçoit à des signes qu'il comprend que la femme souhaite le coït. Car la femme retenue par l'intimité de son sexe, souvent ne va pas exiger, ne va même pas dire son envie, mais elle va le manifester d'une manière ou d'une autre. Alors c'est très intéressant, si vous voulez, cet effort pour établir une égalité là où il n'y en avait pas, mais en même temps, la manière dont on établit, dont on essaye d'établir cette égalité, la manière dont on privilégie la femme, risque de se retourner contre elle, car quand je prends les choses, par exemple, au XVIe siècle, on voit Thomas Sanchez, qui est un des grands théologiens jésuites et un des plus grands, des plus libéraux des théologiens du mariage. Et à un moment, on dit « L'homme sait mieux que la femme ce qu'elle désire » à propos de ce débat. Et alors, on voit où ça vous enferme, et j'ai l'impression que jusqu'aujourd'hui, ou du moins jusqu'au temps de ma jeunesse, moi, j'ai souffert de ce que, souvent, j'avais l'impression que les femmes pensaient que je savais mieux qu'elles ce qu'elles désiraient. Je ne sais pas si ça vous est arrivé, mais j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est resté, hein. L'homme est censé savoir ce qui fait plaisir à une femme, la femme n'a pas à le dire. Oui, alors, si vous voulez, revenons à ce rapport conjugal par rapport au rapport d'amour. Donc, on distingue nettement les deux choses. Avec sa femme, on fait des enfants. Avec une maîtresse, si on en a, on cherche le plaisir. Alors, naturellement, pour l'Église, c'est un péché d'avoir une maîtresse.
C'est un rapport totalement inversé. C'est-à-dire, c'est la femme qui est...
Attendez,
qui est maîtresse du rapport.
Là, parce que vous pensez à quelque chose que j'ai écrit, mais qui s'adresse uniquement au rapport courtois. On peut avoir des maîtresses dans un autre contexte que le contexte courtois. Hein.
D'accord.
Effectivement, attendez, je vais revenir après au contexte courtois. D'abord, je voudrais opposer contexte conjugal et contexte courtois. Donc, dans le contexte conjugal, on fait des enfants, on paye la dette conjugale, et dans le contexte des amours, de l'amour, on recherche le plaisir. ce que je voulais dire, c'est que pour l'Église, évidemment, c'est un péché. Mais pour la société civile, tout le monde admet qu'un jeune homme doit avoir des maîtresses. Enfin, je veux dire, il faudrait voir dans quel milieu social on est. Mais si on se place dans l'aristocratie, ben, tous les jeunes gens ont des maîtresses. Ce qui serait impardonnable, c'est qu'ils veulent faire d'une maîtresse sa femme.
C'est ça. D'accord.
Bon, si vous prenez... Bon, Brantôme le dit à toutes les pages, mais Montaigne le dit lui aussi. Il dit que dans sa jeunesse, il a eu des maîtresses. Enfin, des gens qui sont... Montaigne est assez moral. Hein. Il n'est pas bigot, mais il est moral. Et finalement, il est assez bon chrétien. Mais il admet que, bon, on a des maîtresses. Il faut que jeunesse se passe. Il faut que... Hein. Et si vous regardez ce qu'il dit du mariage, il vous dit c'est une relation sévère, avec ma femme je n'ai pas utilisé d'autre manière que la naturelle, et on voit très bien ce que c'est que pour Montaigne que la manière naturelle, c'est sans fioriture quoi.
Augustin Barbara.
Dans le rapport conjugal, ce que j'avais noté en vous lisant, c'est bon, une subordination assez forte de la femme. Mais, et le rapport était totalement inversé dans le rapport courtois, justement, où c'était la femme qui avait l'initiative, et le mot maîtresse dit bien, elle est maîtresse et elle a un serviteur.
C'est ça. Je crois que, si vous voulez, pour comprendre le rapport conjugal, il faut d'une part regarder les théologiens, mais d'un autre côté, voir aussi la société civile. Alors, pour les théologiens, d'ailleurs même pour les théologiens, le mari a plus ou moins le droit de battre sa femme. Encore au XVIe siècle, du moins il a le droit et le devoir de la surveiller, de faire qu'elle se conduise bien, et bon, il doit rien lui laisser passer. Hein. Et on sait, d'après les coutumes, qu'au Moyen-Âge, au XVe siècle, et encore un petit peu plus tard, le mari a le droit de battre sa femme jusqu'à la mort non comprise. S'il la tue, bon là c'est un peu ennuyeux, à moins que il jure qu'il n'a pas fait exprès de la tuer.
Ah okay. Oui.
Il pensait pas la tuer. Mais sans ça, bon c'est ennuyeux de la tuer, mais on peut la battre jusque là. Tandis que la femme, en revanche, n'a absolument pas le droit de porter la main sur son mari. De même que l'enfant n'a pas le droit de porter la main sur ses parents. Alors, vous comprenez que c'est quand même une relation extrêmement inégalitaire. Et que l'homme peut imposer pratiquement ses volontés à la femme, et que la femme a peut-être d'autres moyens d'imposer ses volontés, mais extrêmement détournées. Donc, on peut dire que dans le rapport conjugal, l'homme est le maître, la femme est la servante.
À partir du moment où les rapports sont codifiés de cette façon, et qu'il n'y a pas de recours pour les perturber, hein, les mariages étaient une machine, enfin une mécanique qui fonctionnait bien et qu'on ne remettait pas du tout en
cause. Si vous voulez, je crois qu'il ne faut pas idéaliser. D'un côté, je suis d'accord avec vous, je pense que comme on demandait beaucoup moins au mariage qu'on lui demande aujourd'hui, ça avait des chances de mieux marcher.
Voilà, c'est ça.
D'un autre côté, ça ne marchait pas toujours bien et il y avait des séparations. Moi, je n'ai pas étudié les procès en séparation, ça a été étudié pour la région du Nord, où on avait de bonnes archives par André Lottin. Et là, on voit les motifs de séparation invoqués, qui sont très souvent des coups et blessures.
Ah bon ?
Mais c'est-à-dire que tant que le mari tape sur sa femme avec un bâton, ça va, on ne divorce pas pour ça. Mais quand il commence à la poursuivre avec une hache ou... Alors là, ça peut être une...
Mais est-ce qu'on a des... Parce que quand on dit le mari avec une hache, est-ce qu'on a des idées sur les milieux sociaux dans lesquels ça se passait ?
Oui, et j'ai pas le dossier très présent en mémoire, comme je ne l'ai pas étudié moi-même. Oui. Mais
parce que bon, est-ce qu'il y avait des façons de se séparer différemment selon qu'on faisait partie de l'élite sociale de l'époque.
Oui, je crois que assez tôt, en tout cas dès le XVIIe, XVIIIe siècle, il semble qu'il y ait deux poids et deux mesures. Chez les paysans, un mari qui bat sa femme, ça ne tire pas à conséquence. Et encore au XIXe siècle, l'Église le dit plusieurs fois à propos de la contraception, par exemple, on dit à la femme que si son mari veut pratiquer le coït interrompu, elle ne doit pas le laisser faire. Mais elle risque que son mari la batte. eh bien, on dit, bon, ben, son mari la battra, quoi, c'est pas une affaire, c'est pas pour ça qu'il faut commettre ce péché mortel qu'est la complicité dans le coït interrompu. En revanche, lorsqu'il s'agit des bourgeoises ou des nobles, même des paroles méchantes peuvent être prises en considération pour excuser la complicité dans un acte contre nature.
Oui. Selon les milieux sociaux, il y avait une variation énorme.
Et alors, ça apparaît très nettement au XIXe siècle, mais je crois que c'est déjà, ça apparaît déjà au XVIIIe, même peut-être au XVIIe siècle. D'accord. En revanche, il me semble qu'au XVe et au XVIe siècle, on battait sa femme dans tous les milieux assez normalement. C'est à préciser. J'en ai pas de preuve absolue, mais j'ai cette impression d'après les livres de morale qui parlent des relations entre mari et femme.
Oui. Enfin, c'est quelque chose encore de contemporain. Effectivement, dans la relation de couple, la notion de violence dans le couple, actuellement, est quelque chose qui émerge. Enfin, c'était quelque chose qui était plus ou moins gardé sous silence. Et puis, actuellement, il y a une expression de cette violence dans le couple. Enfin, les SOS couples, par exemple, et puis les SOS femmes battues, par exemple.
Qui font état de ces...
Et je crois qu'historiquement, c'est très intéressant à étudier. Parce qu'aujourd'hui, il y a toujours des maris qui battent leurs femmes. Et disons que c'est un phénomène à prendre en considération. Bon, je veux dire que c'est quelque chose qui nous vient sans doute du passé. Il y a plusieurs raisons, mais entre autres facteurs, il y a un facteur culturel, un facteur traditionnel. J'ai l'impression que c'est souvent des hommes autoritaires qui ont une certaine image de leur autorité et qui leur vient du passé.
Oui, c'est-à-dire que je pense qu'on ne peut pas non plus, dans le fait par exemple de la violence dans le couple, être très simpliste en disant bon, c'est toujours le mari qui bat la femme. Je crois que c'est beaucoup plus complexe que ça et que ça place les coups dans un système de communication qui fait que dans la crise de couple, parce que la crise, ça existe, et je pense que c'est même un très bon révélateur de la relation de couple, il y a un certain moment une impossibilité de communiquer par les mots, et les coups ne sont qu'une expression extrême d'un type de communication, c'est-à-dire que c'est une façon de se parler, et qui est très diversement reçue selon les milieux sociaux, hein.
Non, mais je suis tout à fait d'accord.
L'homme et la femme.
Ce que vous dites, si vous voulez, c'est qu'un aspect du dialogue du couple, mais j'ai l'impression que même leur dialogue amoureux est plus ou moins parlé. Et souvent, il était plus en gestes qu'en paroles, du moins dans la paysannerie traditionnelle.
Sur le thème mariage et relations de couple, Jean-Louis Flandrin et Augustin Barbara répondent maintenant aux questions du public réunies dans l'auditorium des musées du château des Ducs de Bretagne. Madame,
moi, je vais poser une question à Monsieur Flandrin qui a parlé de la notion de pouvoir de l'homme sur la femme dans le lien conjugal. Mais alors, lorsqu'il s'agit du lien extra-conjugal, la maîtresse a le pouvoir sur l'homme. Et on peut dire qu'à ce moment-là, si on compare, par exemple, si on voit le terme maîtresse de maison, la maîtresse de maison, c'est celle qui reste à la maison, et alors la maîtresse, c'est celle qui a le pouvoir ailleurs. Alors là, je rejoindrai ce que disait Monsieur Barbara, vous dissociez mariage et amour.
Je crois qu'il faut voir un petit peu l'histoire du mot maîtresse. Hein. C'est un mot qui nous vient de la relation courtoise. C'est-à-dire, bon, l'amour courtois, ça existait vers le XIIe siècle. Et non, on n'avait pas seulement le mot maîtresse, on avait le mot serviteur qui a complètement disparu. La femme était la maîtresse, le chevalier était son serviteur. Les deux, le mot maîtresse existe jusqu'aujourd'hui, mais je crois qu'il a largement perdu de son sens, et j'en vois une preuve dans le fait que le mot serviteur a disparu. Il existait encore dans les relations, dans les amours paysannes au XIXe siècle, au début du XXe peut-être, mais dans la pratique la plus ordinaire aujourd'hui en ville, on ne parle plus de serviteur pour un homme qui est amoureux. Et alors, je crois en effet que dans le rapport courtois, il y avait une hiérarchie complètement inversée. C'était la femme qui était maîtresse et qui pouvait imposer à l'homme ce qu'elle voulait, absolument ce qu'elle voulait. Et pourquoi elle pouvait imposer tout ça? Il n'y avait pas de contrat entre eux. Simplement, qu'est-ce qui désirait quelque chose? C'est l'homme. L'homme désirait la femme, et la femme pouvait lui imposer tout ce qu'elle voulait, car elle ne lui devait rien. Et là, tous les théoriciens de l'amour courtois, j'allais dire de l'époque, insistent énormément sur la différence entre le rapport conjugal et le rapport courtois. Dans le mariage, la femme doit son corps, dans l'amour, elle ne lui doit rien.
Et il n'y a pas la dette conjugale.
Il n'y a aucune dette conjugale.
Et en plus, l'homme est demandeur... Et souvent, la femme était d'un statut supérieur.
Oui, alors, ça s'y ajoute, oui. Ouais.
Et ça joue énormément dans le rapport maîtresse-serviteur. C'est-à-dire qu'il est demandeur.
Moi, j'ai néanmoins l'impression, si vous voulez, que même si, dans beaucoup de cas, dans les cas peut-être les plus importants, la femme est d'un statut conjugal supérieur, j'ai l'impression que, par l'adultère, la femme s'est libérée. Si vous prenez toute notre littérature, elle parle d'amour. Et de quelle sorte d'amour parle-t-elle? Ce n'est pas un amour conjugal. C'est quelquefois un amour qui va finir par le mariage, mais dès qu'on se marie,
le roman s'arrête. Oui, on rentrait un peu dans le mariage comme dans un ordre.
Mais aussi, il s'agit très souvent d'un amour adultère. Et en somme, c'est toute une part de notre civilisation qui tourne autour de cet amour adultère. Et c'est à propos de cet amour adultère que la femme a civilisé l'homme. Qu'elle l'a dressé, qu'elle lui a appris un certain nombre de choses, qu'elle a exigé un certain nombre de choses de lui. Et il me semble qu'à une époque, disons qu'on pourrait placer entre le XIIe siècle et le XIXe, autant l'homme à la maison était un maître éventuellement brutal, autant dans la société, c'était un individu poli, qui avait de bonnes manières avec les dames, etc. Et j'ai l'impression que c'est par l'amour courtois que la femme a réussi à domestiquer l'homme. Et je crois qu'aussi, elle a réussi à le domestiquer au lit et à lui apprendre... la contraception.
Monsieur ?
Moi, je suis, en tant qu'élu local, officier d'état civil, et je procède régulièrement à des mariages. Mmh. Et ce qu'on voit, par exemple, sur une ville comme Nantes, on a un doublement des divorces depuis 10 ans. On a un nombre très important de certificats de vie maritale, c'est-à-dire des gens qui refusent le code civil et qui viennent avoir un bout de papier qui ne sert strictement à rien, puisque dans le droit français, le concubinage n'est pas reconnu. C'est et ça. De plus, on a...
Il n'est pas reconnu, mais il est accepté par un certain nombre d'institutions. Et ça, je crois que la question est très, très intéressante, parce que il me semble que le passage, disons, sans trop encore la définir de façon très précise, de la grande famille à la famille nucléaire, c'est que la grande famille, elle assurait un certain nombre de fonctions sociales, mais est immense, enfin, au niveau de l'éducation, au niveau de l'aide même personnelle, etc. Et le passage à la famille nucléaire fait que le couple est devenu une espèce de d'île et que il n'a plus le support social et familial, d'où l'intervention de l'État par des institutions qui vont lui donner des aides sociales, etc. Et toute une autre série de parents sociaux qui sont des conseillers divers, juridiques, matrimoniaux, qui sont l'assistance sociale, etc. C'est-à-dire que vous avez un déplacement de l'aide sociale, et j'irais même de l'aide purement affective et psychologique, qui s'institutionnalise de plus en plus, ce que j'appelle les parents sociaux. Et au-dessus des parents sociaux, vous avez le grand parent, qui est l'État, et qui, lui, en plus, il aide, mais il contrôle. C'est-à-dire qu'il y a effectivement deux individus qui croient vivre une relation duelle très forte, mais dès qu'ils ont des enfants, etc., eh bien, il se fait contrôler, aider par... cette espèce de nouvelle grande famille qui a des aspects tout à fait comparable.
Donc je crois qu'il vaut mieux parler de couple que de voir l'évolution du mariage. Ceci me paraît très très net. Je maintiens que le concubinage dans le droit français, actuellement, ça n'existe pas. Simplement, il y a quel droit ? En droit.
Mais
c'est-à-dire que les services municipaux de l'état civil peuvent délivrer des certificats de vie maritale, mais il n'y a rien qui peut les obliger. Il n'y a pas de loi, et actuellement, c'est le flou le plus artistique dans ce domaine-là. Ça permet simplement, pour des personnes qui ont des enfants et qui sont reconnues vivant maritalement, d'avoir quelques exonérations fiscales et avoir quelques avantages à la sécurité sociale. Mais dans le droit français, le concubinage n'existe pas, actuellement.
Allez-y, monsieur.
Oui, je voudrais faire une remarque au sociologue qui me permettra de poser une question à l'historien. Alors la remarque au sociologue, c'est la notion de cohabitation juvénile. Est-ce que c'est une notion qui est récente dans la sociologie, car la cohabitation non juvénile existe aussi? Et je voudrais demander justement quelle était son importance par rapport au mariage à l'historien au XIXe siècle et jusqu'à maintenant environ. Quelle était l'importance de la cohabitation, de l'union libre? Je fais remarquer d'ailleurs à monsieur Lélu là, que la notion de concubinat n'existe pas, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une définition, comme dans le code civil, une définition du mariage, mais il existe, si vous voulez, une reconnaissance du concubinat, par exemple dans la jurisprudence, quand des concubins perdent l'un d'eux, des tribunaux admettent que l'on puisse aller jusqu'à l'indemnisation du concubin survivant et faire payer des dommages d'intérêt à celui qui a causé le tort. Alors je voudrais demander à l'historien, quelle était l'importance de cette... si elle existait, disons, et quelle était son importance?
Jean-Louis Flandrin.
Quand on prend les choses, mais on peut difficilement les prendre statistiquement, mais quand on prend les choses au XVe siècle, il semble qu'il y ait pas mal de concubins. Un exemple, et d'ailleurs qui est nantais, à Nantes au XVIe siècle, ou dans la région nantaise, la moitié des naissances illégitimes semble être le produit d'une union stable qu'on pourrait appeler concubinage. En revanche, dans la même ville de Nantes, au XVIIIe siècle, vers la fin du XVIIIe siècle, il n'y en a plus que 2,5%. Des naissances illégitimes qui sont le produit d'une union stable. Entre le XVIe siècle et le XVIIIe siècle, que s'est-il passé? Il y a eu une guerre à outrance de l'Église contre le concubinage. Et il est relativement facile, si vous voulez, de lutter contre le concubinage. Tout simplement, ils sont excommuniés. Ils sont excommuniés en chair. On dit un tel et un tel qui vivent ensemble sont excommuniés. Qu'est-ce que ça veut dire? Que personne ne doit parler avec eux, ne doit faire d'affaires avec eux. Ils sont mis au banc de la société. Ils ne peuvent pas continuer à vivre dans cette ville s'ils sont excommuniés. Et alors, j'ai l'impression que l'Église a donc réussi, même dans des grandes villes comme Nantes, à détruire le concubinage. Et ça s'est passé, me semble-t-il, entre le début du XVIe siècle et la fin du XVIIIe siècle. Et puis à partir de la fin du XVIIIe siècle, on voit le concubinage remonter au XIXe siècle et aujourd'hui. Maintenant, je suis amusé par le mot « juvénile » parce que s'il y avait un concubinage autrefois, c'était souvent pas un concubinage juvénile. C'est-à-dire, la situation la plus normale, la plus habituelle, c'était le patron avec sa servante. Mais il pouvait se faire aussi qu'une veuve ne trouve pas facilement un mari, mais trouve un amant, et quelquefois finalement l'épouse. Et c'était pas très juvénile. C'était l'un ou plus des deux partenaires était jeune, l'autre était quelqu'un d'établi.
D'autres questions? Oui, monsieur.
On a parlé tout à l'heure de l'acte conjugal et on a fait une différence entre l'acte qui est fait pour procréer et celui qui est fait pour plaisir par amour. Là, je ne suis pas tout à fait d'accord parce que je pense qu'il est possible de procréer par amour l'un pour l'autre et également pour l'enfant à venir.
Oui, mais ça, je vous interdis absolument pas de le penser. Moi, je vous dis simplement ce que disaient les théologiens.
Oui,
hein? Et eux, ils opposaient les deux choses.
D'accord.
À l'époque, autrefois.
D'accord,
aujourd'hui, ils les confondent. Ce que vous donnez là, c'est la position actuelle de l'Église. On fait un enfant par amour, et si vous voulez, la contraception est aussi bien un péché contre l'amour que contre la procréation.
Oui, mais autrefois, l'Église avait même donné les conditions les meilleures pour procréer,
oui,
pour avoir l'enfant.
Oui,
enfin, les conditions physiques de l'acte.
D'accord, mais c'est pas ce qui me semble le plus intéressant. Oui. Ce qui me semble le plus intéressant, c'est que lorsque on pourra parler de l'amour dans certains débats, mais lorsqu'on parlait de la relation sexuelle des conjoints, lorsque le mot amour apparaissait, c'était péjorativement. C'est-à-dire que On dit, il y avait la maxime qui venait de Saint Jérôme et qui auparavant avait été empruntée aux pythagoriciens et aux stoïciens. Adultère est aussi l'amoureux trop ardent de sa femme. On ne parlait pas de l'amoureux pas trop ardent. Hein. Si on parlait de l'amour, c'était uniquement à propos de cet amoureux, de ce mari qui aimait trop sa femme et qui était considéré comme un adultère. Mais ce n'était pas simplement un procédé rhétorique. Les gens du Moyen-Âge, les théologiens du Moyen-Âge l'ont pris littéralement. Et lorsqu'on étudie l'adultère, on dit qu'il y a plusieurs cas. Alors, il y a l'adultère simple, quand un homme marié a des relations avec une femme pas mariée. Il y a l'adultère double, quand un homme marié a des relations avec une femme mariée. Et dans ce cas-là, se trouve le mari qui a des relations avec sa propre femme. Mais s'ils sont trop amoureux l'un de l'autre, ils sont adultères. Vous savez, ces choses-là, si vous voulez, sont faites en effet il y a très longtemps. Hein. Moi, je dirais que c'était fait même avant le christianisme. C'est une doctrine qui, à mon avis, vient du stoïcisme, vient de l'Antiquité. Et que, bon, dans les premiers temps du christianisme, sur ce problème, il me semble que l'Église a pris beaucoup de choses à l'Antiquité, au stoïcisme, et en général à la morale des gens, bon, comme les pythagoriciens, les stoïciens, un certain nombre de moralistes comme Socrate, Platon, etc. Et puis que c'est passé dans la doctrine chrétienne du mariage. Mais des choses qu'on ne trouve pas dans l'Évangile. Tout ça, vous ne le trouverez pas dans l'Évangile. Et aujourd'hui, on revient beaucoup plus à ce qui est dans l'Évangile.
Oui, je voudrais m'adresser maintenant à M. Barbara, qui a parlé des mariages à l'essai, je crois. Enfin, lui, il appellerait davantage du présent.
Bien sûr.
Les mariages à l'essai, oui, évidemment, il y en a, je dirais, de plus en plus. Mais je ne pense pas quand même que tous les jeunes qui vivent ensemble avant le mariage, ce soit uniquement pour cette raison. Oui, un certain nombre pour se connaître, mais je pense également qu'il y a des raisons économiques aujourd'hui importantes. Beaucoup de jeunes hésitent à fonder un foyer à cause du chômage et d'un ordre d'autres
choses. Oui, bien sûr, on ne peut pas isoler la création d'un couple et le projet de mariage de tout un contexte économique. Dans l'exposition, on voit très bien la relation qu'il y a, par exemple, entre le fait d'avoir une très bonne récolte et d'avoir des mariages après, et quelquefois même d'attendre l'année suivante pour se marier, parce qu'on n'a pas assez de surplus économique pour pouvoir réaliser le mariage, qui, en plus, était une fête. Hein, et une fête qui coûtait cher. Donc il fallait la relation entre conclusion du mariage et conditions économiques, je dirais, est très 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 présente actuellement.
Mais ça c'est quelque chose de traditionnel.
Oui, hein? Mais actuellement, je pense que ça l'est très fort encore.
C'est traditionnel, hein? Ça existe toujours aujourd'hui, mais ce qui est totalement nouveau, c'est l'autre côté des choses, c'est-à-dire, par exemple, et là je ne parle pas de la cohabitation juvénile, je parle, par exemple, des filles qui veulent avoir un enfant. Autrefois, si vous voulez, il me semble que toute fille mère était fille mère malgré elle. Si elle l'avait pu, elle se serait mariée. Et si elle ne s'est pas mariée, c'est parce qu'elle n'avait pas les moyens, elle n'a pas la dot voulue, qu'on n'a pas voulu d'elle, etc. Aujourd'hui, au contraire, vous avez un certain nombre de filles mères qui sont filles mères volontairement, et là, il y a vraiment une coupure, c'est quelque chose de tout à fait nouveau.
Une dernière remarque, si vous voulez. Je pense que l'institution du mariage reste très forte quand même dans l'esprit des gens. Je vois par exemple, on a parlé tout à l'heure des certificats de vie maritale distribués. À Nantes, il en a été distribué 400 dans l'année 80. Nous avons fait 1800 mariages, vous voyez à peu près une proportion.
Mais 400 oui, certificats,
ça va crescendo, c'est vrai.
Je trouve ça assez important.
Je voulais dire également que l'institution du mariage reste quand même très ancrée. Un mariage sur cinq dans la ville de Nantes, nous trouvons un divorcé, quelquefois les deux. Ce qui prouve que les gens qui divorcent, c'est souvent, la plupart du temps, pour se remarier.
Le divorce a une fonction actuellement, il active le marché matrimonial.
C'est ça, c'est-à-dire qu'on ne croit plus peut-être à l'indissolubilité du mariage, mais au mariage, on y croit.
À mon avis, c'est la preuve la plus forte que l'on mélange le mariage et l'amour.
Voilà, actuellement. C'est-à-dire que le couple occupe une place forte dans le mariage et il veut s'isoler. autrefois, au niveau des deux conjoints, il n'y avait pas simplement un consensus au niveau de deux individus, c'était un consensus assez large. C'était pour le consensus de deux groupes sociaux, de deux familles, tandis qu'actuellement, on a tendance à vouloir un consensus de deux personnes sur une base beaucoup plus étroite, et alors qu'on exige beaucoup plus de choses qu'on exigeait avant. Une crise conjugale actuellement fait très vite des dégâts au niveau de la communication dans le couple, alors que autrefois on peut penser qu'il y avait des moyens de résoudre, de parler de la crise à des gens qui habitaient au même endroit, des parents. Et avoir une crise conjugale actuellement dans un HLM de deux pièces, c'est tout de suite l'immeuble qui tremble, je dirais. Et il y a tout de suite un effet de fracas, si vous voulez, dans le couple, qui est très dommageable pour les conjoints. Tandis qu'avant, la crise avait, je pense, elle trouvait sa fin par ondes successives. Et actuellement, il y a une dramatisation de la crise, justement. Et justement, la crise est intéressante comme analyseur, je dirais, du couple, parce que c'est un des moments de vérité du couple. C'est-à-dire, c'est le moment où tout ce qui est refoulé réapparaît, où les conjoints ne se mentent pas dans leur expression.
Vous êtes assez pessimiste, là, parce que si c'est ça le moment de vérité...
Non, c'est un des moments de vérité clés, enfin, je pense...
Mais tout le reste n'est pas que mensonge.
Non, je pense aussi.
Madame ?
On a l'impression, je parle un peu en tant qu'historienne aussi, que malgré ce que vous avez dit tout à l'heure sur l'Église... la sexualité était beaucoup plus épanouie sous l'Ancien Régime. Alors que 19e, l'amour se cache avec la bourgeoisie qui tue l'amour et qui condamne la sexualité. Puis on a l'impression qu'il faudra attendre les années 60 pour que celle-ci ressurgisse un peu partout.
Jean-Louis Flandrin.
Au 19e siècle, quand vous avez par exemple beaucoup de comédies ou de drames qui vous montrent des mariages d'argent, enfin des pères qui imposent à leurs filles des mariages d'argent, ça ne veut pas forcément dire que le mariage d'argent est en train de progresser. Ça me semble vouloir dire qu'on ne l'accepte plus et qu'on le met sur une scène pour montrer que, bon, quelque chose qui est devenu inacceptable, alors qu'autrefois c'était la règle et qu'on n'en parlait pas.
Augustin Barbara.
Actuellement, il y a plus au niveau du couple, une volonté d'être. Alors que dans le mariage, il y avait peut-être une volonté de paraître. Je ne sais pas si la sexualité, c'est le plus important actuellement, si ce n'est pas plus un sentiment d'amour qui dépasse la sexualité. Enfin, peut-être un retour du romantisme, malgré des analyses contradictoires. Et moi, je pense justement que dans le couple, les partenaires sont un peu très idéalistes et qu'ils croient au couple un petit peu plus à l'idée de couple qu'au couple. Et l'idée de couple, elle, ne divorce pas. On se sépare. On ne divorce pas quand on est en couple, quand on est cohabitant juvénile. Jusqu'au moment où arrive l'enfant qui, lui, ramène, alors là, les partenaires à une réalité sociale qu'ils avaient pu plus ou moins refouler jusqu'à maintenant. Ils ramènent les deux partenaires à une identité conjugale.
Quand ils sont par derrière, connais-tu bien une telle ? Quand ils sont par derrière, connais-tu bien une telle ? Elle croit tout bonnement que j'ai de l'amour pour elle. Ah, l'andri tralala et tralalire. Elle croit tout bonnement que j'ai de l'amour pour elle. Elle croit tout bonnement que j'ai de l'amour pour elle. Pour lui faire voir que non, je vais m'y moquer d'elle. Ah, l'andri tralala et tralalire, pour lui faire voir que non, je vais m'y moquer d'elle. Pour lui faire voir que non, je vais m'y moquer d'elle. Je m'en vais faire l'amour à 100 pas de chez elle. À l'andri tralala et mettre la lyre. Je m'en vais faire l'amour à 100 pas de chez elle. Je m'en vais faire l'amour à 100 pas de chez elle. Nous boirons le vin blanc, elle aura les bouteilles. À Landry, tralala, et tralalire. Nous boirons le vin blanc, elle aura les bouteilles. Nous boirons le vin blanc, elle aura les bouteilles. Nous boirons la liqueur, elle léchera les verres. À Landry, tralala, et tralalire. Nous boirons la liqueur, elle léchera les verres. Nous boirons la liqueur, elle léchera les verres. Voilà comme les garçons se moquent de leur maîtresse. À Landry, tralala, et tralalire.
C'était Mariage et relations de couple, un numéro de dialogue de Roger Pilaudin avec l'historien Jean-Louis Flandrin et le sociologue Augustin Barbara. Première diffusion le 7 avril 1981 sur France Culture.